t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
est... Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. De l'année scolaire 2018-2019, l'école primaire passe des 6 à 8 ans sur toute l'étendue de la RDC. C'est dans le cadre de la réforme de l'enseignement. Nous voulons améliorer l'enseignement des bases. Il n'y aura plus de première et deuxième secondaire, a annoncé la semaine dernière Gaston Moussebena, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ce système éducatif est hérité de l'enseignement au Congo belge, a-t-il ajouté. Il va falloir désormais inculquer à l'enfant des comportements et attitudes qui traduisent un éveil développé des facultés intellectuelles, morales, sociales et physiques. Comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous au 081 890 49 69 09 97 06 49 69. Ce sont les deux numéros pour intervenir en direct. Alain Goy est à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Nico Kalamba et Gilles Lungembo est à la coordination. Et Pierrot et à la Meiji, j'ai le réel plaisir de vous les présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Merci d'être avec nous. Réforme de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'ajout ou la suppression de deux classes, beaucoup de questions que les gens se posent, les parents, les élèves eux-mêmes. Mais nous allons ensemble essayer de comprendre l'importance de cette réforme. Mais en attendant, pour en parler, nous avons en ligne professeur Raïssa Malou. Bonjour, bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour et merci beaucoup.
Merci d'avoir accepté notre invitation, même quand on vous a eu tout à l'heure à pied levé. Vous avez piloté, si on peut dire ainsi, cette réforme. Avant d'aller plus loin, est-ce que c'était nécessaire qu'on puisse arriver à cette réforme au niveau de l'école primaire?
Alors, d'abord, j'aimerais bien rappeler que la réforme de l'éducation de base est inscrite dans la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national. Donc, ce n'est pas une réforme qui est introduite par un projet, mais c'est bien une réforme qui a été voulue par la République, par le législateur, en introduisant ça au niveau de la loi cadre. Ce que fait le projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, donc PECPSU en cycle, que je dirige pour le volet enseignement secondaire général, c'est justement de permettre à cette réforme de pouvoir se transparaître, en tout cas d'être présente dans la modernisation des nouveaux programmes du domaine d'apprentissage des sciences. Donc il faut bien se rendre compte que c'est bien une réforme qui a bien été voulue au niveau du législateur. Alors pourquoi est-ce qu'elle est importante? Je crois qu'il faut comprendre un peu ce que veut dire l'éducation de base. L'éducation de base, en fait, c'est un socle commun de compétences, de connaissances, de savoir-faire professionnel, entrepreneuriaux et de savoir-être auxquels ont droit tous les enfants. La RDC, il faut savoir que c'est un mouvement qui est généralisé en Afrique. Il y a plusieurs pays qui sont déjà passés à l'éducation de base. La RDC le fait maintenant. Donc il s'agit en fait d'outiller nos enfants en compétences qui leur permettent de jouer un rôle positif dans la communauté. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et cette éducation de base, en quoi elle s'articule? C'est un continuum de 8 ans. Donc ce sont les 6 années du primaire qui sont associées aux 2 premières années du secondaire pour former ce continuum de 8 ans. Donc contrairement à l'idée qui circule, qui consiste à dire que l'on va allonger le primaire de 6 à 8, ce n'est pas vrai. Les 6 années du primaire restent 6 années du primaire. Les 2 années du secondaire restent bien au secondaire. Mais l'ensemble, ces 6 plus 2, forment un continuum en termes de compétences, en termes de connaissances, en termes de savoir. C'est vraiment là toute la différence.
Mmh. Et je voudrais que le message soit clair. Mmh. Mais alors, qu'est-ce qui va changer au fond? C'est au niveau de matières qui sont données? Voilà. Est-ce que c'est au niveau de matières?
Voilà. Le changement, c'est uniquement au niveau des matières et uniquement au niveau, pour septembre 2018 qui nous concerne directement, seulement le domaine d'apprentissage des sciences. Donc les cours de mathématiques, sciences physiques, technologie, informatique et sciences de la vie et de la terre, donc si on connaissait anatomie, zoologie, etc. Donc c'est uniquement les matières qui changent. Les enfants, à la rentrée scolaire, qui quittent la 6e primaire, vont bien s'inscrire en première secondaire. Mais dans la réforme de l'éducation de base, cette première secondaire fait référence à la 7e année de l'éducation de base, en fait, pour bien rappeler ce continuum pédagogique qu'il y a entre ces 6 années du primaire et ces 2 années de secondaire. Mmh. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, vous vous inscrivez bien en première année secondaire l'année prochaine.
Mais alors, quand on doit procéder à cette réforme en termes de contenu de matière, mais il y a aussi le professionnel qui doit vous donner ces matières. Est-ce que la réforme est accompagnée de la mise à niveau des enseignants pour qu'on puisse avoir les enseignants effectivement? Est-ce qu'à ces jours, ils sont compétents pour pouvoir accompagner cette réforme?
Alors, ah oui, absolument. D'abord, il faut quand même rappeler peut-être l'historique, parce qu'on peut avoir l'impression que nous passons comme ça, nous imposons des nouveaux programmes sans l'avoir préparé. Il faut bien se rendre compte que ces programmes, ça va faire 2 ans et demi, qui sont en train d'être modernisés. Cette année scolaire ici qui vient de passer, ils ont été mis à l'essai dans 543 écoles pilotes au sein de 15 provinces éducationnelles ciblées. Et c'est parce que l'évaluation de cette mise à l'essai a bien montré que les nouveaux programmes avec la nouvelle approche apportent des résultats positifs que la décision a été prise de passer à la généralisation, mais uniquement de ces programmes-là. Pour ce qui relève des enseignants, oui, ils seront formés. Donc ceux déjà qui avaient mis à l'essai les programmes durant cette année scolaire ont été formés. Ceux qui vont appliquer les nouveaux programmes en septembre seront formés ici en juillet et en août déjà. Et puis il y aura tout un dispositif de formation continue durant toute l'année scolaire de manière à renforcer les choses. Donc oui, les choses sont bien préparées. Les enseignants seront formés, seront accompagnés pour l'application de ces nouveaux programmes dans l'esprit de la réforme de l'éducation de base.
Mmh. On vous garde, professeur. Sœur Aïssa Malou, on va écouter aussi Monsieur Singhi Pouloulou, qui est un opérateur dans le secteur de l'éducation, promoteur d'école. Mais Monsieur Singhi, vous êtes aussi membre de la réforme des écoles techniques. Hein. Nous sommes ensemble avec vous dans cette émission. Bonjour.
Bonjour Monsieur le journaliste et merci à Radio Capi et à nos très chers auditeurs.
Et en tant qu'opérateur dans le domaine de l'éducation, comme je le disais, vous êtes promoteur d'école. Pensez-vous qu'il était temps qu'on puisse réformer, adapter pour qu'enfin le contenu des matières puisse répondre aux vrais besoins aujourd'hui?
Et je salue la clairvoyance de son Excellence ministre de l'EPSP qui a vu qu'il était nécessaire de le faire parce que nous sommes en réalité en retard. Et moi, je crois que beaucoup de gens n'ont pas la facilité de voir. Quand ils regardent, ils ne voient pas. Le ministre est allé plus loin. Là, il faut lui retirer. Il faut vraiment lui féliciter. Vous savez, en matière d'éducation, éduquer signifie quoi? C'est construire intellectuellement un enfant. Or, nous savons que dans la construction, la base est fondamental. Donc, dans l'éducation, il y a l'éducation de base qui doit être fondamentale. Je vais vous donner un élément. Le ministre a vu très loin. Parce que vous savez que à l'école primaire, je vous donne l'année 2013, 2014, 2015. Chez nous, dans notre école, groupe scolaire Nsingh, sur les 100% des élèves inscrits à l'école primaire, seuls 60% ont terminé l'année. Alors, les 40, les 60% qui ont terminé l'année, qu'on a versé à l'école secondaire, 60% encore de cet effectif a terminé, a accroché le diplôme d'État. Beaucoup n'ont pas pu arriver en système des humanités. Que deviennent ces enfants-là qui ne terminent pas? Et les primaires, et les secondaires. Ils sont sans qualification, ils sont dans la rue, ils sont sans occupation, et finalement, c'est une bombe à retardement. C'est les analphabètes qu'on a formés, c'est du chômage qu'on a renforcé.
Maintenant, le ministre, en faisant ça, il pense à quoi? Je ne suis pas dans sa tête, mais je crois que il a vu ce que je voyais plus avant. Le ministre, je crois bien, veut en sorte que quand on arrive à 6e des humanités, l'enfant a 11-12 ans, il n'a pas l'âge de conscience. Mais quand on arrive à 14 ans, c'est l'âge de la décision. Donc, à ce niveau-là, on donne un document qui sanctionne la fin des études de base. Ça aura quel impact? Cet enfant qui termine le cycle de base, il a la décision. Il peut travailler comme taxateur, il peut travailler comme distributeur, il peut travailler comme l'agent de courrier. Aujourd'hui, dans les entreprises publiques, nous avons quel problème? Vous avez des gens que vous appelez syndicats. Mais d'où vient le problème des entreprises? Quelqu'un est engagé comme huissier parce qu'on a engagé des huissiers. Mais lui, il est licencié. Oh non, c'est un moyen pour entrer seulement dans l'entreprise. Après une année, il commence à créer des problèmes. Moi, je suis licencié, je ne peux pas être huissier. Mais on avait besoin d'un huissier. Ces gens-là constituent un problème dans les entreprises. Même dans l'administration publique, c'est le même problème. Mais maintenant que le ministre, visionnaire qu'il est, il a vu ça, on va créer une classe moyenne, réellement moyenne. On aura besoin de huissiers, quelqu'un qui a son titre délivré par l'État congolais, comme titre de fin de carrière des études de base, l'enseignement de base, il peut travailler, même si les parents sont morts, il n'a pas eu le temps de terminer les études, mais la sanction qu'il a, les documents qu'il a, les titres qu'il a, lui permettra de travailler comme tout agent. Mmh.
Voilà. Alors, pendant que vous gardez la ligne, Tingui, on donne la parole à Valérie qui est ici à Kinshasa. Vous avez suivi professeur Raïssa, vous avez suivi Tingui Ploulou qui est opérateur dans le secteur de l'éducation. Valérie, pensez-vous aujourd'hui que cette réforme telle qu'est présentée par professeur Malou, ça va être important pour permettre à ce que ces enfants qui sortent de l'éducation de base soient différents et répondent réellement aux besoins aujourd'hui dans notre communauté, Valérie?
Oui, merci pour la parole. Bonjour à tout le monde, y compris Madame le professeur Raïssa. Bon, je suis tout à fait d'accord avec la réforme parce que dans une société, on ne peut pas vivre une monotonie pendant des années et des années. La réforme implique quoi? Implique que on a ausculté l'histoire, on a projeté l'avenir et on s'est dit en fin de compte, pour mieux atteindre l'avenir, voilà comment nous devons réaliser. Et surtout qu'aujourd'hui, parmi les multiples définitions de l'intelligence, celle qui est beaucoup plus en vogue, dont le mérite est attribué à Jean Piaget, le français, il dit que l'intelligence, c'est l'art de s'adapter. Donc, une société doit s'adapter. D'où une société doit toujours aller de réforme en réforme. Mais seulement, je constate que il aurait fallu que cette réforme soit un peu postposée. Pourquoi? Voyons un peu le niveau de nos enfants aujourd'hui qui quittent l'école primaire. Déjà, rien qu'avec ce niveau, ils ont des difficultés pour s'adapter à l'école secondaire par rapport au programme actuel. Et s'il faudrait que demain, ils puissent aborder un tel programme, je crois qu'il fallait d'abord pas renforcer l'enseignement au primaire. Former les pédagogues. Imaginez-vous que nous, qui avons été formés par le pédagogue, disons, ceux qui sortaient de l'école normale, nous avons été bien formés par rapport à ceux qui sont formés par les deux sites des humanités pédagogiques. C'est parce que, en amont, les enseignants qui étaient préparés pour donner cours à l'école primaire, ce ne sont pas les deux sites des humanités pédagogiques, mais plutôt ceux qui ont fait l'école normale. S'il fallait qu'on prolonge cela, il fallait aussi adapter. Alors, il fallait d'abord avoir des enseignants. Commencer à préparer les élèves au niveau de l'école primaire avec de nouvelles méthodes. Il faut aussi bien payer les enseignants. Surveiller les écoles privées qui donnent plus l'allure commerciale plutôt que pédagogique. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pouvait d'abord savoir qu'au bout de 6 ans, nous aurons des enfants sortant de l'école primaire avec un tel bagage, lequel leur permettra d'aborder le programme que nous avons inséré. Mais à cette allure, je crois qu'il y aura un couac. Parce que le but primordial de l'école primaire, c'est faire apprendre à lire, à écrire et à calculer. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants qui n'ont pas ces bagages-là. Alors là, ça ne va pas. Et si nous voulons même rentrer en pédagogie, quelle est la définition du verbe apprendre en pédagogie, en didactique? Ce verbe est défini comme étant le fait soit d'acquérir de nouvelles habitudes ou de modifier les anciennes habitudes avec la volonté de l'apprenant. Donc, nous comprenons que celui qui a appris, qui est formé, a une autre façon de voir les choses. Il change ses habitudes par rapport aux connaissances acquises. Jean Piaget dit, les connaissances ne s'accumulent pas comme les sacs de bagnons qu'on est en train d'empiler les uns sur les autres. Non. Quand une nouvelle connaissance arrive, elle ne s'empile pas, mais plutôt elle réorganise l'homme. Hein, c'est comme une goutte d'eau qui s'insère dans une masse. Eh bien, on ne voit pas que la hauteur augmente comme ça, mais il y a une certaine réorganisation de la masse.
Voilà.
C'est comme
alors,
ça avec les connaissances.
Voilà, pour vous, moi, Valérie, connaître aller plus vite vous êtes mieux connaître aller plus vite. Singhi Pouloulou, vous êtes promoteur d'école. Pensez-vous aujourd'hui qu'on doit rester dans cette définition, dans cette mission, comme le disait tout à l'heure Valérie, de lire, écrire et calculer tout simplement, si on considère ce que professeur Raissa Malou venait de dire sur les matières qui doivent être insérées aujourd'hui dans cette réforme. Est-ce que l'école, l'éducation de base, va seulement rester dans cette conception de lire, écrire et calculer?
Lire, écrire et calculer, ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. L'objectif de l'enseignement, c'est former un enfant pour un domaine bien précis. C'est-à-dire quoi? Ce que venait de dire notre intervenant, il y voit ce qu'il est en train de vivre dans la société congolaise. Mais le ministre veut que cette réalité vivante, comment maintenant la traduire en résultat? Comment changer ça? Comment donner maintenant les meilleurs? C'est ça ce que le ministre donne. Parce que vous devez savoir, les réformes des réformes, c'est le programme de base. Les programmes de base, c'est ce que le ministre a fait. Donc, un programme doit correspondre, parce que le ministre, qu'est-ce qu'il a tenu? Il a tenu compte qu'il faut avoir un socle minimum de connaissances, en tenant compte des standards internationaux, en tenant compte de l'environnement et en tenant compte de tout ce que nous vivons. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand ils disent que les écoles aujourd'hui, l'enfant termine, ne sait pas lire, écrire ni compter, ça fait partie de l'individualité. Tous les enfants qui terminent, dire qu'ils ne savent pas lire, je crois que là, il n'a pas tous les données.
Non, mais il a dit qu'il y a, il y a beaucoup de faiblesses. Les enfants ont des faiblesses aujourd'hui quand ils terminent l'école primaire pour pouvoir aborder l'école secondaire.
Vous savez, je venais de dire ici qu'on tient compte de l'environnement. On tient compte de l'environnement et de la situation de l'enfant. Ce qui veut dire qu'un enfant qui est régulièrement... Parce que la loi vous a dit quoi? La loi dit que l'école primaire doit être gratuite. Pour quelle raison? Simplement parce que pour que l'enfant bénéficie de la formation, il doit être disponible, régulier. Mais quand l'enfant est chassé à tout moment à faute d'argent, pourquoi moi j'ai mis dans mon école, moi, groupe scolaire Ntingi, à Selembao, l'école primaire, c'est gratuit. Pour quelle raison? C'est effectivement parce que j'avais compris que il faut donner le goût à l'enfant de venir chaque jour à l'école et d'étudier chaque jour. Dès primaire, quand on le chasse, l'enfant a les dégoûts. Et cet enfant qui a les dégoûts, il ne sait pas se rattraper. Les horaires de primaire vont se répercuter même en sixième primaire jusqu'à l'université. Vous savez le problème de la formation aujourd'hui. Quand on dit que les enfants aujourd'hui ne sont pas bien formés, ceux qui étaient formés hier, dans les années où ils disent que l'éducation était bonne, mais ce sont eux-là qui sont au pouvoir, non? Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme résultat? N'entrons pas dans ce débat de politique. Mm-hmm. Mais nous revenons dans ce que la réforme qu'a portée son excellence le ministre de l'EPSP. Ce que nous devons retenir, c'est quoi? Dans la formation, il y a trois éléments. Il y a d'abord l'apprenant, il y a les programmes et puis l'enseignant. Or, le ministre a déjà, ce programme est en train d'être expérimenté. Après avoir expérimenté ce programme, c'est comme ça maintenant il veut vulgariser ça pour que ça devienne un programme commun de tout le monde. Nous vivons ça mais en retard. Nous débattons ce programme aujourd'hui en 2018. Mais au Canada, ce programme existe depuis quand? En Belgique, vous avez ce qu'on appelle à Paris Bac Pro. Mais d'où vient Bac Pro? Mais c'est ça, non? Les ministres, bon, parce que nous sommes au Congo, on parle le langage en tant que des Congolais. Mais seulement que, ce qu'il faut savoir,
merci,
nous ne pouvons pas continuer à nous opposer, même à ce qui nous fera du bien. Parce que ce programme aura pour impact, c'est de créer une classe moyenne. Je vous l'ai dit, moi j'ai mûri ce programme, j'ai lu ça, j'ai tenté de comprendre l'esprit de l'auteur. J'ai compris que
merci.
Il s'est référé dans les textes. Malheureusement,
merci,
il n'a pas le soutien du budget pour rendre l'école réellement gratuite.
Voilà.
Sinon, Félicitations à Moussemena, à son excellence ministre de l'EPSP.
Merci. Merci beaucoup, Singi Pouloulou, pour tous ces éclairages. Vous êtes opérateur dans le secteur de l'éducation et promoteur d'école. Merci beaucoup pour ces témoignages et ces idées que vous avez présentées. Professeur Malou, on vous garde le temps d'écouter. Trésor qui nous appelle d'Egbadolité. Bonjour, Trésor.
Bonjour. Je voudrais préciser, maintenant, je suis à Mbandaka. Donc, j'ai déjà quitté Badoulut il y a une semaine.
Merci beaucoup.
Et puis, apporter une autre précision pour dire que l'enseignement primaire est gratuit uniquement dans les établissements publics et non privés. Ça, on doit les retenir. Bon, ici, on nous apporte un nouveau système. Bon, il paraît nouveau, mais en réalité, c'est un ancien système qui est repris dans une réforme envisagée. Donc, nous sommes dans un éternel recommencement. Bon, de toute façon, à mon avis, je ne vois pas un inconvénient que ce système pourrait apporter sur la formation des écoliers et des élèves. Mm-hmm. Mais ce que je vois, c'est que les ministres pourraient épargner les écoliers et les élèves qui ont déjà commencé l'école primaire et l'école secondaire, puisque l'élève, un écolier ou un élève qui est déjà en troisième année, il sait que dans 3 ans, il va finir son école primaire ou son école secondaire. Alors, dire que on lui ajoute 2 ans, donc psychologiquement, cet enfant risque d'être troublé, bouleversé, parce que là, ça va peser sur lui. Et donc, si on veut bien faire les choses, Il faudrait que ce système part des écoliers qui entrent à l'école primaire cette année. Donc, ceux qui commencent la première année primaire, ce sont eux qui doivent normalement être concernés par ce système. Et que ceux qui avaient déjà commencé puissent poursuivre avec l'ancien système et ainsi de suite, on pourra asseoir le système comme il se doit. Et sinon là, on serait injuste. Et puis même les parents qui ont déjà déboursé des moyens, les enfants qui sont, par exemple, en 6e année primaire cette année, on dit à ses parents que donc ils doivent se préparer pour supporter encore 2 autres années de l'école primaire. Voyez un peu ce que ça peut faire.
Donc, alors, là, il faut que... voir... Oui, oui, Trésor, si vous avez bien suivi professeur Aïssa Malou, qui va d'ailleurs donner encore plus de précisions sur la compréhension, on n'a pas ajouté 2 ans. Quand vous dites qu'on a ajouté 2 ans à l'école primaire, c'est comme si l'enfant pourrait encore vivre 2 ans de l'école secondaire. Non, mais ce sont les 2 ans qui restent, qui l'enfant devait passer en première primaire. Ça dit que l'enfant reste, mais les contenus changent. Je crois que professeur va encore pouvoir expliquer. Simon, vous gardez la ligne, vous êtes à Matadi. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Kapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes, gastronomie, littérature, les us et coutumes, et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Retrouvez toute l'équipe tous les samedis à 8h30, le mardi à 14h15.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Professeur Aïssa Malou, vous avez suivi nos compatriotes qui sont intervenus tout à l'heure. C'est vrai qu'au début d'un processus, il faut assez de temps d'explication pour que le gens arrive à comprendre. Quelle peut être votre réaction à propos de suite aux propos des uns et des autres?
Ok, merci. D'abord, ce que je voudrais d'abord, c'est préciser quelque chose par rapport à l'intervention de Monsieur Trésor. On ne rajoute pas d'année. Merci de l'avoir fait remarquer à la fin de son intervention. Pour les enfants et les parents, ça ne change rien. Il y a toujours 6 années du primaire et quand ils finissent le primaire, ils doivent toujours passer en première secondaire. Ce sera exactement la même chose. Il n'y a aucune année, aucune classe qui qui sont faits, qu'on rassure les enfants du primaire. Ils apprennent leur sixième primaire, ils passent bien en première secondaire. Ceux qui sont en short quand ils sont au primaire devront bien mettre un pantalon en première secondaire, normal, comme c'est prévu pour le secondaire. Je voudrais rassurer Monsieur Valéry. Comme je vous le disais, il ne faut pas croire que ce processus est un processus qui a été fait rapidement. Ça va faire 2 ans et demi qu'on y travaille. Les nouveaux programmes ont d'abord été prévalidés. Donc, ils ont été conçus par des experts de du ministère. Ils ont été prévalidés par 83 experts dans les provinces, complètement indépendants du processus de création. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas participé à l'élaboration de ces programmes et ces experts indépendants ont dû les prévalider. C'était des enseignants, des inspecteurs, autant du niveau secondaire que du niveau ISP, les instituts supérieurs pédagogiques, donc dans les provinces et à Kinshasa. Grâce à cette prévalidation, ces programmes sont partis dans la mise à l'essai, comme je l'ai répété, dans 543 écoles pilotes depuis septembre 2017. Et là, ce sont bien des enfants qui étaient en 6e primaire en 2016 qui sont rentrés en première secondaire durant l'année scolaire 2017-2018 et qui ont testé ces nouveaux programmes. Et l'évaluation de cette mise à l'essai a bien montré qu'il y avait une amélioration en termes des apprentissages. Il y avait une diminution de l'échec en mathématiques, par exemple. Il y avait une augmentation de l'intérêt des élèves pour les sciences, parce que nous adoptons une approche par les situations. Ça veut dire que ce que nous faisons, c'est que l'enfant doit être capable d'appliquer ce qu'il a appris dans des situations réelles, dans un contexte qu'il vit tous les jours. Et on voit que les enfants sont beaucoup plus intéressés par des savoirs qui sont contextualisés que des savoirs qui restent abstraits. Donc on a bien remarqué qu'il y avait une augmentation de l'intérêt de ces enfants qui sortaient du 6e primaire, qui étaient en première secondaire durant cette année scolaire qui se termine, et une augmentation en termes d'apprentissage, une augmentation de leur point au niveau de ces domaines, donc de ces matières de sciences et de maths. Et c'est parce qu'on a eu justement ces résultats là que alors la décision est prise de généraliser. Donc il faut vraiment être rassuré, ça n'a pas été un processus irréfléchi. Au contraire, on a adopté une procédure exigeante pour être certain que lorsque nos programmes arriveront seront généralisés, ils vont bien apporter quelque chose de positif en termes d'amélioration des apprentissages et de l'enseignement du domaine d'apprentissage des sciences. C'est vraiment un élément essentiel. Il faut avoir confiance en le processus et c'est vraiment basé sur une analyse statistique rigoureuse et sur un processus rigoureux et qui a respecté les enseignants et les élèves. Il faut savoir aussi que ces programmes se basent justement sur, comme on dit, le profil d'entrée en première secondaire maintenant dans ces programmes, c'est pas sur le profil de sortie de 6e primaire. Donc, il n'y a aucun décalage entre ce que les enfants apprennent au primaire et donc on a fait une continuité de manière à renforcer les apprentissages. Et pour renforcer ce que disait le collègue, la personne qui est promoteur d'une école, c'est clair que ce que l'on veut, c'est qu'au bout de l'éducation de base, donc à la fin de ces 8 années, donc ces 2 années de secondaire, l'enfant soit compétent pour jouer un rôle positif. L'enfant avait juste le TENAFET, il ne savait rien faire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était s'inscrire en première secondaire, mais imaginez tous ces millions d'enfants qui n'ont peut-être pas l'occasion de le faire pour X raisons. Ici, l'idée, en créant un continuum où on rajoute, où on met dans un continuum cohérent les 2 années de secondaire avec les 6 années du primaire, c'est qu'on permet que l'enfant, au bout des 8 ans, si la vie faisait qu'il ne pouvait pas continuer l'enseignement secondaire, s'il ne peut pas continuer avec nous, eh ben, il peut quand même être outillé que pour jouer un rôle positif, créer une petite activité qui permet de générer des revenus, qui peut l'aider lui et la famille, de jouer un rôle positif dans la communauté. Donc c'est vraiment une réforme importante, une réforme qui est préparée. Elle commence par domaine d'apprentissage des sciences, elle va s'étendre avec les autres domaines pour que l'ensemble finalement puisse passer, que l'on ait l'éducation de base qui sera entièrement préparée. Et j'insiste bien, les enseignants seront formés, ils ont été formés, ils seront formés, ils seront accompagnés durant l'ensemble du processus pour que les choses se passent bien. Et alors, il y a vraiment une amélioration en termes d'apprentissage des élèves pour ce qui est du domaine d'apprentissage des sciences, qui est concerné par la nouveauté.
Alors professeur, mais on sait que non seulement il faut apporter du contenu de la matière, mais il faut aussi tout l'arsenal qui doit accompagner, en termes d'accès à la technologie, en termes d'accès au matériel didactique qu'on connaît aujourd'hui avec des multitudes d'écoles que nous avons, qu'on a des problèmes sérieux de moyens pour accéder soit au manuel, pour accéder soit au matériel didactique. Et est-ce que dans la stratégie de réforme, tout cela est pris en compte?
Oui, nous allons distribuer à partir de septembre 18 000 kits scientifiques qui vont être distribués à toutes les écoles public, je précise bien, en appui au nouveau programme. Donc il y a des kits scientifiques qui vont être distribués. Le projet prévoit également la rénovation de laboratoires modèles pour améliorer l'enseignement dans certaines provinces. Donc oui, nous sommes en train de combiner la modernisation des programmes du domaine d'apprentissage des sciences avec le fait de mettre à disposition des kits scientifiques qui permettent de renforcer cet apprentissage. C'est bien ce qui est en train d'être fait.
Voilà, on vous garde le temps d'écouter Simon qui est dans le domaine de l'éducation. Vous êtes syndicaliste, vous êtes enseignant, Simon. Chaque fois quand on fait le débat autour du système éducatif, ça vous concerne tellement. Et là, nous sommes en train de faire le débat sur cette réforme au niveau de l'école primaire. Merci d'être avec nous, Simon. Bonjour.
Ouais, merci et bonjour à tous les auditeurs. Pour rappel, je suis le secrétaire provincial de SINECAT, syndicat des enseignants des écoles conventionnelles catholiques et affiliés aussi, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants. Mmh. En fait, il y a des décisions qu'on peut prendre maintenant qui peuvent être utiles pour l'avenir de la nation. Vous savez, nous sommes dans un environnement ou dans un temps où l'approche par objectif a présenté plusieurs limites que s'entamait la qualité. Et maintenant, on a basculé vers l'approche par objectif pour aller dans l'approche par compétence. Et maintenant, l'approche par compétence, il faut que les gens le sachent, que lorsqu'on a basculé de l'approche par objectif pour aller vers l'approche par compétence, il faut qu'il y ait absolument des réformes qui doivent accompagner cette approche. Mmh. Si on ne le fait pas, on risque de rester toujours à la case du départ. Nous pensons que ce système, ces deux ans qu'on a accordé maintenant à l'enseignement de base, nous pensons que sont amplement suffisants et je crois les députés qui avaient déjà depuis 2012, parce que les gens pensent que c'est M. Moussenena qui a inventé ça. Non, c'est depuis 2012 que la loi cadre a été votée. Et c'est une obligation légale de pouvoir obéir cette loi. Ça a été promulgué par le président de la République depuis 2014. Le secrétaire général actuel, le ministre de l'enseignement de l'EPSP actuel ont pris le courage pour voir déjà les données en présence qui constitueraient des programmes et l'appliquer. Nous pensons que c'est une bonne idée et c'est ça la réforme que nous cherchons. Et non la réforme qui consisterait à prendre les options techniques classique, technique,
le mettre dans un ministère de formation professionnelle, ça n'a pas un contenu. Et nous appuyons
cette nouvelle formulation parce que ça a des bénéfices pour la nation et pour les enfants de ce pays. Parce que imaginez aujourd'hui, on prend un enfant de 11 ans, parce que l'année c'est 11-12 ans, qui termine l'école primaire. Et où vous allez le mettre? En quoi vous allez l'adapter? Mais si l'enfant fait 8 ans de la formation de base, l'État congolais lui donne un brevet ou un titre.
Il est capable, si jamais les parents n'ont plus de moyens pour faire progresser l'enfant dans l'enseignement classique, on peut l'orienter maintenant vers l'art et métier. C'est de l'art qu'il peut aller apprendre les bénisteries, la menuiserie, tout ça qu'on sort avec un bagage intellectuel important, capable de se défendre. Donc nous pensons que il faut, nous commençons à communiquer, je crois, à Matadier, partout ailleurs, nous sommes en train de passer pour expliquer les bien fondés. Et c'est de même, c'est que le ministère doit accompagner ça. Mais aussi, nous avons pensé qu'il faut qu'on rentre un peu comme au début là. Il faut que cet enseignement de base, moi je pense, il faut qu'il y ait déjà des orientations, déjà à partir de l'enseignement de base. Je veux dire, on peut mettre les écoles primaire, veut dire 8 ans, il faut qu'il y en ait qui seront formés spécialement en maths et français. Au lieu encore d'imbiber beaucoup de leçons, beaucoup de matières à un élève. Ça aussi, c'est parmi les reproches qu'on fait à notre système éducatif.
Mais on donne, oui, même s'il pouvait avoir ces matières.
Mais en principal, on peut donner soit ici, dans telle école, il y a maths et français. De l'autre côté, on met la science, l'histoire, sciences botaniques. Et puis, de l'autre, on met la nouvelle technologie pour adapter. De façon que dès que l'enfant a un brevet, après l'examen de ENAFEP, maintenant, ça sera un examen, ça ne sera plus un test. Alors, dès qu'il finit, il a un papier, on sait déjà les profils, où on sait les profils où l'enfant a été formé, où il s'est rendu capable. Directement, avec les filières classiques, on peut directement l'orienter, et dans l'art et métier, ceux qui auront fait la nouvelle technologie, c'est, pouvait aller. Donc, c'est un peu cet esprit encore qu'il faudrait faire intérioriser à ces différentes commissions de réforme qui sont en train de travailler. Nous pensons que l'idée est bonne et les ministres, les députés, les secrétaires généraux qui ont travaillé par rapport à ça, ils méritent pour cette fois-ci un coup de chapeau. Mais aussi, l'État doit accompagner les ministères parce que ces réformes, si on ne met pas les formateurs dans les conditions de produire la qualité des réformes, on risque toujours de rester dans la case de départ parce qu'il n'est secret pour personne que l'enseignant congolais est le plus mal payé du monde, sous-payé, impayé, presque pas payé. Il faut que l'État congolais voit encore de ce côté-là pour que les choses marchent ensemble et que l'avenir soit plus meilleur.
Merci voilà beaucoup. Merci Simon. Merci. D'ailleurs, c'était la sous-question que j'allais vous poser. Heureusement que vous avez évoqué cela. Les conditions de travail de l'enseignant, il faut qu'il soit mis dans les conditions où il peut reproduire ses programmes sans problème. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute Marie-Paul.
Oui, écoutez, monsieur le journaliste, j'ai entendu l'intervenant, j'ai entendu aussi votre invité. Monsieur le journaliste, moi, de mon point de vue, je note que la réforme actuelle de l'enseignement en RDC, c'est tout à fait un éléphant blanc. C'est un éléphant blanc, c'est un projet monné, vidé de sa substance même avant son application. Et pourquoi je l'ai dit? Parce que lorsque vous lisez les motivations qui ont été avancées pour cette réforme, je note que ces motivations n'ont rien à voir avec la réalité ou avec les problèmes de la RDC, avec les problèmes que connaît l'enseignement en RDC. Si on veut aujourd'hui résoudre les problèmes, on veut résoudre les problèmes de nivellement vers les bas, des niveaux des apprenants, ce n'est pas en augmentant le nombre d'années qu'on va résoudre ces problèmes. Non, l'essentiel n'est pas là-bas. Ce n'est pas parce que vous avez quitté de 6 ans à 8 ans que vous allez résoudre tous les problèmes. Non. Moi, je note plutôt que ce qu'il faut résoudre, c'est aller vers les formateurs. Allez, il faut tenir compte des formateurs. Qui forme qui? Il a quel profil? Parce que lorsque, même en Angoumata, 8 ans, est-ce que vous n'avez pas de bons formateurs? Mais ces enfants vont toujours avoir les mêmes problèmes. Nous allons quitter, nous allons faire...
Alors, Marie-Paul, oui. Comme nous sommes dans un processus, c'est si on peut comprendre ça autrement, je reviens encore à ce que nous avons dit tout à l'heure, qu'on n'a pas ajouté 2 ans à l'école primaire, on garde les 6 ans plus les 2 ans de secondaire, on est toujours dans les 8 ans. Cette fois-là, c'est les contenus qui changent. Alors, mais comme on est dans un processus, cela veut dire on change les matières, mais aussi on s'épanche sur ceux qui doivent donner ces matières. Nous sommes dans un processus, cela veut dire qu'on accompagne avec les deux, c'est ce qu'on vient de dire depuis le début de l'émission.
Oui, je comprends. On doit changer, mais les grands problèmes, c'est au niveau d'hommes, c'est au niveau des formateurs. Parce que même si on va de réforme à réforme, est-ce qu'on ne tient pas compte des formateurs? Je crois qu'il n'y a pas, lien. Nous n'allons pas atteindre l'objectif, c'est donc nous cherchons. Et pour atteindre l'objectif, nous devons tenir compte des formateurs. Donc, on doit revoir la situation des enseignants, la situation de ceux-là qui sont voués à la formation des élèves. Si on résout les problèmes, je crois qu'on peut avoir, on peut atteindre l'objectif. Et non aller dans des séquences qui va peut-être nous entraîner avec une confusion totale qui est presque, à mon avis, une myopie parce que on doit toucher les traitements dans les racines, c'est d'aller de résoudre de ces problèmes-là. Mm-hmm. Vous voyez, alors, même l'intervenant a posé le problème du salaire. Donc les gens sont démotivés. Même si vous allez faire des séquences avec la démotivation, vous pensez qu'ils vont faire le meilleur d'eux-mêmes? Non! Il faut motiver les enseignants. Oui, voilà. et avoir des objectifs bien clairs par rapport à notre enseignement pour que l'enseignement soit un facteur de développement comme ailleurs.
Merci beaucoup, Marie-Paul. Mais rappelons que celui qui a soutenu, qui a parlé avant vous, celui qui vous a précédé tout à l'heure, c'est un enseignant. Vous avez suivi, c'est le secrétaire provincial du Sénécat au Bas-Congo. C'est lui qui estime que c'est très intéressant. Il a soutenu, mais il a quand même abordé dans le même sens que vous vers la fin, en disant que tout en améliorant le contenu, le programme, la réforme, il faut soutenir l'enseignant, l'amélioration des conditions de travail. C'est pour cela qu'il a parlé de l'accompagnement du gouvernement. Mais faudrait-il aujourd'hui rejeter pour que d'abord payer bien les enseignants pour pouvoir procéder au changement du contenu, ou on peut aller, comme j'ai dit, c'est un processus pendant qu'on améliore les contenus, mais aussi on voit les conditions de travail des enseignants. Merci beaucoup, Marie-Paul. Jean-Claude, vous êtes à Kindu. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour, cher ami. Bonjour à l'invité, à l'ensemble des auteurs de Radio Kapi.
On vous écoute, Jean-Claude.
Oui. Pierrot, moi, je dis, je soutiens cette réforme parce que dans chaque société, il faut qu'il y ait des réformes. Parce qu'on ne doit pas s'éterniser avec la monotonie. Mais mon souhait à moi est que cette réforme se fasse de fond en comble. Quand je parle que la réforme soit faite de manière au moins globale et totale, c'est voir presque au moins tous les contenus, comme l'a dit mon prédécesseur. Il faut qu'on voie aussi la qualité de l'enseignement, qu'on améliore la qualité de l'enseignement, que les enseignants soient bien payés. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui résoudre un problème de manière partielle. Donc c'est au moins ça et ma petite préoccupation.
Merci. Merci beaucoup. Nous revenons à vous, professeur Aïssa Malou. Vous avez suivi, hein, les compatriotes reviennent, même l'enseignant qui a parlé tout à l'heure a beaucoup soutenu, mais il revient aussi sur le problème des conditions de vie de l'enseignant. Je crois que c'est un processus, comme je le disais tout à l'heure. Mais si vous avez suivi Simon, qui est un enseignant, lui, il estimait que dans le contenu, faudrait-il séparer les matières pour éviter aussi que l'enfant ne se retrouve avec et les mathématiques et les nouvelles technologies et les sciences et l'ensemble de tout ça. Est-ce que ces paquets risquent d'être lourds ou bien faudrait-il les scinder d'une école à l'autre, ce qui peut aussi poser un problème?
Non, pas du tout. En fait, c'est pour ça d'ailleurs que je crois que c'est une nouvelle terminologie que j'emploie, qui est peut-être pas courante, c'est le domaine d'apprentissage des sciences. En fait, tant que les matières sont séparées, elles sont décontextualisées et les enfants ne voient pas de lien entre eux. Justement, une partie de la réforme, c'est de rendre cohérent l'ensemble du domaine d'apprentissage des sciences. Faut bien vous rendre compte que quand vous êtes en physique, si vous n'avez pas de bonne base en mathématiques, vous ne savez pas être assez bon dans ce domaine. Même chose pour la biologie et la chimie. Ce sont des domaines qui ne sont pas séparés et cloisonnés. Au contraire, les frontières entre elles sont floues. Donc ici, l'une des parties de la réforme, c'est justement de faire travailler tous les enseignants concernés du domaine d'apprentissage des sciences en groupe, de manière à ce que l'enfant puisse avoir une formation cohérente sur l'ensemble de ces disciplines. Et ça, c'est très important, c'est un élément essentiel de cette modernisation des programmes, c'est de parler en termes de domaine d'apprentissage et puis en termes de discipline, et mettre ensemble les enseignants de ces différents du domaine ensemble pour qu'ils puissent fournir une formation cohérente à l'enfant. Maintenant, effectivement, la partie de la réforme, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, nos programmes donnaient trop de matières qui n'étaient peut-être pas essentielles. Et c'est pour ça que justement ici, on est allé au savoir essentiel. On a demandé aux experts, définissez qu'est-ce qui est les savoirs essentiels que l'enfant doit absolument maîtriser, quelles sont les compétences qu'il doit acquérir, et c'est ça que l'on va développer. Parce que celles-là vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Donc on a effectivement réduit les savoirs, on a limité ça aux savoirs essentiels, on a défini des compétences clés que l'on est en train de faire acquérir aux enfants. Parce que c'est inutile de les bombarder de choses qui finalement, dont ils ne voient pas le rapport, donc c'est pas cohérent, etc. Donc on a travaillé sur la cohérence entre l'ensemble des disciplines, en réduisant aux savoirs essentiels et en développant des compétences clés. Autant des compétences sur les disciplines que des compétences transversales, ce qu'on appelle les soft skills. Donc des compétences comme savoir, ben voilà, travailler en groupe, savoir s'exprimer, savoir synthétiser, qui peuvent servir, ou savoir rédiger, qui peuvent servir non seulement pour le domaine d'apprentissage des sciences, mais aussi pour les autres domaines, en fait. Et donc, ce qui va arriver quand tous les autres domaines seront réformés, c'est que l'enfant va avoir une cohérence, il va avoir des enseignants qui vont apprendre à communiquer entre eux, au niveau du secondaire, de manière à pouvoir leur fournir une formation qui, pour eux, a du sens, quelle que soit la discipline qui est abordée. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très bon pour notre système éducatif. la modernisation des programmes que nous sommes en train de faire pour le moment, quoi. Mmh. Et qui rend vraiment un véritable service à nos jeunes.
Mmh. Il y a, tout à l'heure, là, nous sommes en contact avec nos amis des Radio Capi Lubumbashi, hein, qui sont aussi parents, comme d'autres parents qui sont ici, hein, à côté de moi au studio, qui posent des questions sur ce que vont devenir les enfants qui ont fait l'examen, les NAFEP cette année. Vont-ils encore passer l'examen pour terminer? Exactement.
Ah non.
Les garçons vont-ils continuer à aller en kilote? C'est un parent qui demande, est-ce que mon fils va porter les pantalons? Voilà. Quelles sont les précisions par rapport à ça, oui?
Le TENAFEP, donc les enfants qui ont passé le TENAFEP vont passer en première secondaire, en deuxième secondaire. Il n'est pas certain que l'ENAFEP sera mis d'ici 2 ans. On est en train d'y travailler, mais il faut la modernisation des autres programmes. Donc ils ne doivent pas s'inquiéter. Ils vont avoir un cursus normal, parce que l'éducation de base, ça prend quand même un certain temps. C'est bien de commencer par un domaine, le domaine d'apprentissage des sciences, qui est donc un domaine pilote, et qui va comme ça favoriser le changement des autres disciplines. Donc il ne faudra pas s'inquiéter pour ces enfants-là. Ils vont suivre un cursus secondaire relativement normal, où chaque année ils vont avoir des nouveaux programmes du domaine d'apprentissage des sciences. Donc à partir de maintenant, ils vont les avoir sur les 6 années qu'ils vont faire, ils vont passer l'examen d'état. Les enfants qui étaient en pantalon au cours, en short, enfin je ne sais pas comment vous les appelez là, en première
en kilote,
secondaire,
oui.
Ils doivent mettre un pantalon en première secondaire. Les parents ne vont pas payer pour des années supplémentaires de cours, c'est pas vrai. Donc vraiment, pour eux, ça ne fait pas une grosse différence en termes, je veux dire, matériels. Par contre, la différence majeure qu'il va y avoir, c'est en termes de la qualité de la formation que ces enfants vont avoir pour ce qui relève du domaine d'apprentissage des sciences. Et ça, c'est le plus important pour les parents, à mon avis.
Alors, madame, il y a des écoles ici à Kinshasa qui ont des programmes adaptés, par exemple, au style français, style anglais, style américain, où on dit des écoles bilingues, des écoles alignées sur le modèle occidental en termes de contenu des matières. Est-ce que cela est prévu dans les discussions pour pouvoir comment adapter? Parce qu'on voit deux fois ces écoles qui, ou peut-être on paye un peu plus cher parce qu'on estime qu'ils ont respecté un programme européen ou, je sais pas, américain.
Écoutez, nous, au sein du ministère, nous ne pouvons parler d'abord des écoles publiques. Les programmes de loi qui deviennent des programmes officiels deviennent des programmes officiels de tout le monde. Les écoles privées peuvent, si elles veulent, l'adapter ou s'arranger, mais ça devient le programme officiel qu'elles doivent appliquer. Et quand les inspecteurs viendront, ils verront si c'est bien nos nouveaux programmes. Ce qui est intéressant, c'est pas tant ces écoles-là. Ce qui est intéressant, c'est l'ensemble des écoles publiques et la formation de l'ensemble de la population qui, elle, peut être rassurée qu'elle va avoir une formation de qualité. Parce que c'est vraiment pour cela que nous travaillons. Ce qu'il faut, c'est toujours penser aux millions d'autres qui n'ont peut-être pas la chance de rentrer dans les écoles privées. Ce qu'il y a, c'est qu'au sein des écoles publiques, justement, nous améliorons la qualité de l'enseignement pour l'ensemble des enfants congolais. Et les écoles privées auront nos programmes, devront s'adapter et d'ailleurs se rendront compte que les programmes sont effectivement des programmes de qualité.
On va écouter les deux derniers auditeurs de cette émission. On revient à vous pour la conclusion. Didier est à Kinshasa, Rudy est à Lubumbashi, en 1 minute et demie chacun. Didier, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, Radio Kasi.
On vous écoute.
Oui, nous sommes en train de déplorer par rapport donc cette formation, cette réforme initiée. Nous trouvons que ce n'est pas vraiment, ça ne trouve pas son emplacement du fait que ça ne se justifie pas. Il a fallu d'abord améliorer les conditions de l'enseignant et voir si réellement les nouveaux programmes qu'ils veulent insérer justifient les raisons d'être. Mais aller d'abord commencer par des programmes alors que l'enseignant lui-même n'est pas pris en charge totalement, et ça risque de pénaliser ou encore de déstabiliser les élèves, éventuellement les parents et aussi le système éducatif congolais. Nous aurions que le ministère puisse nous dire réellement le péché qu'il reproche à l'ancien système et l'avantage que le nouveau système apporte et l'essor des enseignants et aussi le système éducatif.
Mais je crois, si vous avez suivi depuis le début, c'est ce qu'on a fait, hein, on a expliqué pourquoi qu'est-ce qu'on a reproché à l'ancien système. Le même promoteur d'école a parlé, un enseignant a parlé, et l'avantage du nouveau système, c'est ce qu'on a fait du début à la fin. Mais en prenant l'anecdote de ce qui se passe avec les transports en commun, parce qu'on va en parler la semaine prochaine, quelqu'un m'a dit au début, quand on a initié la coloration des taxis, on était fâchés. Maintenant, c'est devenu quand même beau, hein. Je crois peut-être que dans tout processus de changement, il y a toujours certaines appréhensions, mais c'est aussi au ministère et à l'ensemble de la réforme de pouvoir se battre pour apporter assez de communication auprès des consommateurs. Merci beaucoup, Didier. Rudy, on termine avec vous. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Rudy.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis à Lubumbashi, c'est vrai. Bon, moi, je me dis d'abord, bon, aujourd'hui ici, cette année, nous avons le cycle primaire qui est à 6 ans. Et on me dit l'année prochaine, ça sera de 6 ans à 8 ans. Bon, d'abord, il y a un sérieux problème quant à la prise en charge de l'enseignement au niveau du pays. Aujourd'hui, les parents d'abord se débrouillent pour payer pendant 6 ans. Maintenant, demain, ce sera 8 ans. Bon, la question que je pose, c'est peut-être à l'invité. Comment ça va se passer maintenant après les huit années passées à l'école primaire? Et puis, l'élève congolais, il aura son diplôme de ça à quel âge? Avant d'abord, on pouvait quand même espérer, après 6 ans, on se débrouille, on paye pour l'élève. Après 6 ans, on a un premier document qui peut permettre à cet élève de se débrouiller autrement. J'ai suivi un intervenant qui a dit, on peut déjà, avec les certificats, on peut déjà se débrouiller quelque part. Bon, aujourd'hui, c'est à 8 ans. Quant à la gratuité maintenant de l'enseignement primaire, c'est comment maintenant les enseignants ils seront pris en charge, comment? Bon, il y a beaucoup, c'est vrai, on peut apporter...
Je crois que c'est pourquoi il faut qu'au niveau du ministère qu'on ait assez de campagnes de communication pour que les gens comprennent. On revient encore pour dire que les parents ne vont pas payer pour 2 années de surplus. On avait 6 ans primaire, 2 ans secondaire, ça reste la même chose, mais c'est dans les contenus et la formulation qui change en parlant de l'éducation de base. Et l'enfant qui va continuer l'école, les humanités générales à partir des 3e, comme d'habitude il le fait, c'est qu'il faudra enlever dans la compréhension. C'est comme si on a ajouté 2 ans de plus de formation et que l'examen d'État va être repoussé à plus loin là-bas. Je crois que c'est à ce niveau qu'au niveau du ministère, on doit faire ce travail d'explication. On revient à vous, professeur Aïssa Malou, parce qu'on doit terminer par là. Vous comprenez qu'il y a encore beaucoup de compréhension, beaucoup d'appréhension. Faudrait-il mettre du temps pour expliquer les systèmes, pour qu'ils soient compris, et surtout que les parents qui ont peur ne puissent pas avoir peur, et surtout que les gens comprennent qu'on n'a pas ajouté 2 ans. C'est juste à ce niveau-là où se trouvent les problèmes. Et bon, on revient encore sur la condition, conditions de travail des enseignants. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en bref, en 2 minutes et demie pour conclure cet échange?
Ce que vous avez dit, je pense que vous avez justement résumé les choses correctement. Nous ne rajoutons pas 2 années. Les enseignants, il y a toujours 6 années du primaire et 6 années du secondaire. Nos enfants, l'examen d'État, ce sera toujours à 18 ans, si je fais une moyenne, au bout des 6 années. Le continuum est pédagogique, ce n'est pas un continuum physique, dans le sens où on ne rajoute pas 2 années au primaire, mais nous faisons que les 2 années du secondaire qui existent déjà et que tout le monde connaît soient dans un continuum pédagogique avec les 6 années du primaire. Et qu'au bout de ces 8 ans, donc les 6 années du primaire avec les 2 années du secondaire, qu'on ait outillé nos enfants à ce qu'ils puissent jouer un rôle positif dans la communauté. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce qu'il va y avoir en septembre? Les enfants qui ont passé le TENACET, qui ont réussi, vont s'inscrire en première année secondaire, comme c'était prévu. Ça, il n'y a aucun changement. Pour ce qui relève, donc quand ils seront à l'école, pour ce qui relève du domaine d'apprentissage des sciences, donc ça veut dire de leur cours de mathématiques, de leur cours de technologie, de leur cours de sciences physiques, de leur cours d'anatomie, etc., ils vont rencontrer des nouveaux programmes qui vont rendre ces enseignements plus intéressants avec une approche par les situations. Ça veut dire que les enfants vont commencer à apprendre à travailler en groupe, ils vont commencer à discuter, ils vont peut-être sortir plus souvent, ou alors on va ramener dans l'école du matériel. Donc l'enseignant va ramener du matériel qu'il rencontre dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas s'inquiéter, on ne va pas commencer à acheter des choses compliquées, non. Ce que l'on veut, c'est partir de ce qui existe, de ce que l'on voit à la cuisine, à la maison, etc., de manière à pouvoir faire acquérir des compétences. Voilà ce qu'il va y avoir. Donc les cours seront plus de maths, les sciences seront plus intéressants en septembre qu'ils l'ont été jusque-là.
Merci beaucoup, professeur Aïssa Malou. Vous pilotez le programme de réforme. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pas le dernier débat. On pourra revenir parce qu'il faut mettre du temps pour que la population comprenne. Merci à l'ensemble des auditeurs. Les débats se poursuivent sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Alain Ngoy était à la mise en œuvre de ce magazine réalisé et coordonné par J.R. Lungembo, Nico Kalamba aussi. Et toute l'équipe vous dit merci. Pierrot et la Mégie, je vous le présente. On se retrouve le lundi pour d'autres aventures avec Paroles aux auditeurs. Portez-vous bien chez vous et surtout en compagnie des Radio Capi. Au revoir.